Bon. Bon, bah on y va parce que c'est l'heure, mine de rien, hein, c'est pas tout ça, mais. Bon, bah bonjour à tous. Merci de s'être déplacé jusqu'ici. Pour ceux qui étaient au bar, ça fait 2 mètres. Du coup, je vais vous parler des super créatures. Donc, pour ceux qui n'ont pas le déplaisir de me connaître, je suis Clément Pellissier. Je viens d'achever une thèse sur les comics. Quand je dis je viens d'achever, c'était il y a une semaine. Et du coup, quoi de mieux pour se changer les idées que de parler de comics, finalement, hein. Donc, en fait, comics, pas que. On va aussi parler un petit peu de cinéma. On va voir que les bestioles dont je vais vous parler, elles ont été sur plusieurs supports. Elles ont essaimé un peu de partout. Donc voilà, on va faire un petit melting pot de bestioles. Alors, on parle de créatures dans cette convention. Là, moi, je vais vous parler de super créatures, le level au-dessus, on va dire. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Merci Guillaume d'ailleurs pour l'assistance technique qui nous a posé quelques petits soucis, mais on y est arrivé. Donc on va commencer, bah t'inquiète, on va commencer par ce qui est sur ma feuille, hein, c'est le plus simple. On va commencer par nos amis les tortues, dès que j'arriverai à cliquer bien sûr. Voilà, alors je vais commencer par vous parler d'un groupe de créatures, de super créatures, qui sont les tortues ninja. Alors, c'est des personnages qui ont été créés en 1984, bienvenue dans les années 80, qui ont été créés donc par Peter Laird, Laird, d'accord, c'est bien, j'arrive pas à me relire. Peter Laird et Kevin Eastman, donc à la base, ce sont des personnages de comics que vous voyez ici. Vous remarquerez, si vous les connaissez, que pour le moment, elles ont toutes un bandeau rouge, mais c'est normal, c'est comme ça qu'elles étaient conçues à l'origine. Et en fait, ça tient à pas grand-chose, ces bestioles-là, parce que, alors, le scénario, il vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est vrai que quand on le raconte comme ça, ça fait un peu bizarre, mais pourtant, de fait, c'est l'histoire de quatre tortues qui ont muté, en fait, en créatures humanoïdes, en créatures anthropomorphes, et qui vont apprendre, par l'entremise d'un rat d'égout, les arts martiaux et le ninjutsu. Donc voilà. Et le maître en question va les nommer, va donner un nom à quatre tortues qu'il trouve baignant dans un liquide mutagène. Il va leur donner un nom parce que il a muté lui aussi, hein, il a accès à un certain niveau intellectuel, il sait lire et il s'intéresse aux arts, pas uniquement martiaux mais aux arts tout court. Et du coup, il va leur donner des noms de peintres de la Renaissance, ce qui n'est pas plus logique que le reste, mais pourtant de fait. Donc on a Michelangelo, Raphaël, Donatello et Leonardo, donc les quatre grandes figures de cette période-là, on va dire. Et chaque tortue est spécialiste d'une arme, donc les ninjato, le bow, donc le bâton, le sai pour les fourches, donc c'est Raphaël, et les nunjaku pour Michelangelo, le ninjato s'étant en fait le. J'ai toujours pris ça pour un katana, en fait non, pas tout à fait. C'est ce que manipule Leonardo n'est pas un katana. Donc en fait, c'est né assez bizarrement, les tortues, c'est né d'une déconne entre les deux créateurs. Pendant une soirée de 1984, ils ont voulu faire la blague, ils se sont dit tiens, une tortue c'est vachement lent, bah nous on va s'amuser, on va faire des tortues qui sont vachement rapides et qui mettent des coups de tatane de partout. Voilà, en gros, les tortues ninja, c'est né de cet oxymore-là, de cette opposition qui fait que, bah, en fait, voilà, c'est l'histoire de quatre tortues qui savent très bien se battre. Donc voilà, ça fait la blague avec le fait que bah, les tortues à la base, c'est lent. Et bien bah, là, non. Surtout qu'on a un imaginaire japonisant, un imaginaire oriental qui se pose par-dessus. Donc là, vous voyez l'ennemi principal des tortues qui est Shredder. Alors il faut savoir un truc, c'est vrai que dans les années 90, on a surtout retenu les films, la série, donc des choses qui sont surtout familiales, mais il faut savoir que les comics à la base étaient nettement plus violents que ce qui a été montré par la suite. Voilà, les tortues n'hésitaient pas à péter des gueules et à se prendre de joyeux coups de latte. Là, vous reconnaissez peut-être, pour ceux qui ont eu la chance ou la malchance, ça dépend de quel point de vue on se place, de jouer à la cartouche NES, qui est très célèbre dans l'histoire, parce qu'effectivement le jeu était assez punitif. Et en fait, bah là, on a l'inspiration directe de la jaquette du jeu NES, où effectivement on avait encore ces quatre bandeaux en couleur unique. Il y a eu ça aussi dans l'histoire, hein, avec le petit côté mi-animatronique, mi-latex, hein, dans les années 90. Alors pour l'anecdote, je me rappelle encore de la toute première fois où j'ai vu ces bestioles-là. Là, c'est tiré du 2. C'est tiré du deuxième film. Il y en a eu 3 pour les années 90. Et puis après, il y a eu pas mal de séries animées et autres films de Michael Bay. On en pense qu'on veut, mais voilà, ça existe. Et donc, voilà, célèbre aussi, c'est cette série animée-là qui va introduire les bandeaux de couleur. Et il faut savoir une chose, c'est que je pense que si Daredevil n'avait pas existé, les tortues n'auraient peut-être pas existé non plus, pas sous cette forme en tous les cas. Daredevil, ça date des années 60, et il y a eu un monsieur qui a influencé le personnage, enfin qui a influencé le personnage. Qui est célèbre pour son travail sur le personnage et pour le côté un peu beaucoup sombre qu'il a donné, et ben c'est Frank Miller. Frank Miller qui va bosser dans les années 80 et sur Batman et sur Daredevil avec Klaus Jensen. Et en fait, dans l'histoire de Daredevil, dans cette période-là, on a le côté ninja, le côté oriental qui est très ancré dans les consciences. Et Frank Miller va avoir l'idée de faire diriger à Daredevil un clan qui va s'appeler La Main, The Hand. Et du coup, les deux créateurs des tortues y voient ça, et du coup, ça les amuse de parodier un peu ça, et ils vont créer le Foot Clan, le Foot Clan, le clan du pied, en fait. Donc, on doit certainement à Frank Miller et à Daredevil l'histoire de ces quatre tortues qui vont aller tataner du ninja en pyjama. Voilà. En fait, il y a beaucoup de bestioles hein, dans les tortues. Il y a eu Krank, notamment, qui est un bonhomme avec un cerveau dans le ventre, qui est amené aussi par la série. Donc, il faut savoir aussi que cette licence, elle n'a pas eu de bol. Franchement, autant elle est ancrée dans la culture populaire, autant elle est célèbre, mais elle n'a pas eu de bol. Pourquoi? Parce que les comics se sont arrêtés dans les années 90, et après, ils ont essayé d'exploiter la licence comme ils le pouvaient. Ça n'a pas franchement marché en fait. Ça n'a pas franchement marché, notamment en 97, on a eu Les Tortues Ninja Nouvelle Génération, qui était une série live en fait, qui ont essayé de surfer sur les trois films des années 90, sachant que le 3 était une catastrophe retentissante. Disons que les prods n'ont pas voulu écouter Vox Populi. Et ils ont décidé de faire une série live en rajoutant une tortue femelle. Alors c'est pas un problème en soi, hein, ça n'a rien à voir avec cette tortue-là précisément, mais disons qu'il y a eu un ensemble d'éléments dans l'histoire et dans la manière de faire qui a fait qu'en série live, ça n'a pas franchement fonctionné. Il y a, pour ceux qui connaissent par exemple le joueur du grenier, je vous invite à regarder sa vidéo sur le sujet. Notamment, on a quand même dans cette série un ennemi qui a sa tête qui sort des toilettes. Voilà, ça annonce un petit peu la couleur, si je puis dire. Ça va malheureusement mal se passer pour ces sympathiques tortues qui sont techniquement donc des frères, hein, enfin qui ont été élevés ensemble, qui ont un caractère bien différent donc que la série de 87 a bien délimité. On a Donatello qui est l'intello de service. On a Michelangelo qui est le bouffeur, le glouton. On va avoir Raphaël qui va être le ténébreux solitaire. Et le dernier qui va être, on va dire, celui qui va fédérer, qui va rassembler. Donc quelque part, on a un ensemble d'imaginaires qui se marie très bien avec ces années-là. Et finalement, on n'est pas loin des super-héros avec ces tortues-là. Hein. En tout cas, ils sont dans la culture comics. Tout récemment, pour ceux qui suivent l'actualité de Batman, Batman les a croisés dans un... Non? Non, non. Non, non, mais toujours pas en fait. Batman les a croisés dans un crossover. Donc, si vous ne connaissez... je t'aime, hein, je tiens à ce que tu saches. Voilà, non plus, toujours pas. Je hais Windows, mais viscéralement si vous voulez. Hop, voilà. Voilà. On évite de cliquer partout. Voilà, c'est mieux. Donc voilà. Bon, je suis obligé d'être assez rapide, assez concis, parce que, en fait, vous le remarquez dans ce magnifique dossier, j'ai plusieurs bestioles à vous présenter. Hein. C'est un florilège en même temps. Bon, super créature. Le bestiaire est vaste. Hein. Ça passionne la SF, hein, ce genre de bestiole. Mais voilà, si d'aventure vous ne connaissez pas les tortues, J'aurais tendance à vous conseiller. Les comics peuvent être un peu pénibles à trouver. Ça dépend des prix. Ça dépend, c'est très fluctuant. Si vous avez l'occasion de tomber sur les comics, n'hésitez pas. C'est à cette même période, par exemple, qu'on a eu les comics de The Mask, c'est chez Dark Horse, qui, avant d'être campé par Jim Carrey, était aussi un comics extrêmement sombre, en fait. On avait vraiment cette mouvance-là, et les tortues s'inscrivent un peu dans cette culture pop très très fun. Je vous invite à découvrir les deux premiers films, on va dire, des années 90. Le troisième, il tient plus du nanar qu'autre chose. Après, on en pense ce qu'on veut, mais il fait aussi partie de la culture. Et quant au film de Michael Bay, bah, faites-vous un avis. Voilà, il a pris des, comment dire, des partis pris qui sont pas forcément inintéressants, mais qui peuvent trancher un peu avec ce que une autre génération a pu connaître. Notamment le fait que, si je me rappelle bien, c'est April O'Neil, la journaliste qui suit leurs aventures, qui est plus ou moins chez Michael Bay à l'origine de la création des tortues. Bon, ça peut être un parti pris. Enfin voilà, faites-vous votre idée, mais ces bestioles-là ont, comment dirais-je, marqué mon enfance. Une autre qui a moins marqué mon enfance, probablement parce que ça me faisait faire des cauchemars, c'est Swamp Thing. Alors, là, on a du gros aussi, on a de la grosse bestiole. C'est un peu la version mastodonte et masculine de Poison Ivy, quelque part, si on veut s'amuser un peu. Alors, ça, c'est une bestiole de comics, hein, typiquement, ça se voit, qui date, elle, de 71 et qui est une idée de Len Wein et Bernie Ringtone pour DC. Oui, pardon, c'est vrai que j'ai pas fait la VF, excusez-moi. Donc, la créature du marais, effectivement, chez nous. Donc, à la base, c'est un scientifique. Alors, comme d'habitude dans les comics, hein, il y a une histoire de base, et puis il y a eu des changements, il y a eu des réécritures, des crossovers. Voilà, les comics ont cette particularité-là, qu'ils s'adaptent aux époques, et de temps en temps, bah, on a des auteurs très générationnels qui vont changer un peu certaines choses, et qui vont réécrire un peu l'histoire, parce qu'il faut les faire évoluer, ces créatures-là. Donc, à la base, donc c'est Alec Holland qui va étudier la biologie, hein, dans un marais de Louisiane, mais il va s'attirer les foudres d'une entreprise pas très sympathique qui va lui mettre une bombe dans son labo. Et en fait, explosion plus produit chimique égale vilaine bestiole. C'est un peu ça. On se retrouve typiquement dans la mouvance, hein, du côté de chez Marvel. À cette époque, il y avait Hulk. Hein, on a vraiment un imaginaire scientifique qui est intéressant à observer parce que on a à la fois cette idée que la science est une chose où les possibilités sont infinies, mais on a l'idée de cette science un peu nucléaire, un peu étrange, qui va engendrer des monstres. Et Swamp Thing est quand même une sacrée héritière de ça. Donc en fait, donc Alec Holland devient un homme-plante, hein, typiquement. Surpuissant, doté d'une force surhumaine, capacité de régénération et grande résistance. Donc, d'autres auteurs vont parfois lui ajouter d'autres pouvoirs. Il peut se téléporter parfois. Alors, où il y a des végétaux, hein, il est quand même limité, si on peut dire. Enfin, dans les marais, ça ne lui pose pas grand problème, du coup. Il peut contrôler la vie végétale, un petit peu comme le fait Poison Ivy chez Batman. Hein. Donc, Swamp Thing a cet intérêt que, bah, toutes les créatures ont cet intérêt, selon moi, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une portée philosophique autour de cette créature. Je vous conseille vivement un article d'un collègue universitaire québécois sur la revue numérique popenstock.ca, qui est donc une revue spécialisée dans la culture pop, hein, culture populaire. Et donc Philippe Saint-Germain a écrit un article sur Swamp Thing et l'influence de Charles Saul sur la créature. Donc c'est vraiment intéressant si vous voulez le consulter. Et par ailleurs, j'ai moi-même commis un article sur Batman et un article sur Daredevil. Si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu ce que je bave dans mes études, surtout, n'hésitez pas. Mais voilà, du coup, l'article de mon collègue est très bon pour ça. Et là, je m'inspire de lui. Hein. Là, j'avoue, je cite très clairement mes sources. C'est-à-dire que Swamp Thing, c'est une créature qui est générationnelle, typiquement. C'est-à-dire que chaque auteur, enfin chaque période, vous savez qu'on fonctionne, ou pas d'ailleurs, vous savez qu'on fonctionne dans les comic books pour se repérer dans ce, un peu dans ce bazar, on fonctionne par âge, par période temporelle et par thématique abordée. On fonctionne par époque, en fait, souvent dans les comics. Et Swamp Thing, bah, c'est typiquement une créature qui s'inscrit dans les âges et qui est générationnelle, c'est-à-dire que chaque auteur adressé à une ou plusieurs générations de lecteurs, et chaque auteur a mis sa griffe, j'aurais presque envie de dire, sur le personnage. Par exemple, Alan Moore est très connu pour son traitement de la créature, parce qu'il va s'interroger sur l'étendue des pouvoirs de la bestiole. Il faut savoir que l'approche originale de Wayne, en fait, a donné quelque chose d'assez classique, en fait. C'est-à-dire que Alec Holland devient cette créature qui va garder un tant soit peu d'intellect humain et de libre arbitre, et du coup qui va se retrouver nostalgique de son époque, de son amour perdu, parce que forcément sa femme était dans l'explosion et bien sûr ressort tragique, très classique, sa femme va décéder. Donc il va un peu être nostalgique de cet amour perdu, il va être nostalgique de cette humanité, et en fait on retrouve une thématique typique de la créature, du monstre, c'est-à-dire c'est le monstre qui va considérer l'espèce humaine, et la question c'est qui est réellement le monstre ? Est-ce que ce sont les humains qui polluent, les humains qui crament la nature, les humains, bref, les humains, tels qu'on les connaît, tels qu'on les aime ? Ou est-ce que c'est la bête qui s'est transformée et qui finalement n'est qu'une victime des circonstances? Et entre parenthèses, un thème qui m'intéresserait beaucoup de travailler par la suite, parce que bon, alors je vais peut-être pas me relancer dans une thèse tout de suite parce que je vais un petit peu mourir, mais j'aimerais beaucoup travailler l'influence des cartoons, par exemple, et notamment la vision de l'industrie par les cartoons et les conséquences de l'industrie. Je m'explique. Il y a une créature, on peut le considérer comme une créature, qui s'appelle le Joker, qui est un ennemi de Batman, et à l'origine, enfin dans une de ses versions originelles, le Joker, c'est un mec qui a été créé par les produits chimiques. Si vous regardez du côté des cartoons, il y a un cartoon que j'adore, qui place deux animaux en scène, c'est Bip Bip et Coyote, ou Roadrunner. Et finalement, quel est le but de Coyote? C'est de bouffer Bip Bip. Sauf que Bip Bip a une petite particularité, une espèce de super pouvoir, dû à sa nature, en fait, à sa nature animale, c'est qu'il court extrêmement vite. Donc pour arriver à choper Bip Bip, qu'est-ce qu'il va faire, le coyote? Il va se tourner vers Acme, vers une industrie complètement barjot, qui livre en plein milieu du désert, et qui va s'évertuer à lui faire péter ses pièges à la figure. C'est là le ressort comique de Bip Bip et Coyote. Donc pour moi, dans l'imaginaire, il y a vraiment quelque chose à tirer de la vision de l'industrie, de la vision de la chimie et de la vision de la science qui génère des monstres ou qui fait du dégât à des pauvres bestioles innocentes. Bon, je ne sais pas si on peut dire que le coyote est innocent, mais il n'a peut-être pas mérité de tomber 10 fois par épisode dans le même gouffre. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Mais si je reviens un petit peu à Swamp Thing, excusez-moi, je m'éloigne un petit peu. On a quelque chose de Frankenstein aussi, hein, finalement, avec ce scientifique qui va créer un monstre. Oui, qui va créer un monstre, mais un monstre qui serait lui-même pour le coup. Donc voilà. Alan Moore, parce que je vous ai parlé de l'approche classique, donc l'humanité, la nostalgie, l'amour perdu. Et Alan Moore, lui, il va amener une nouvelle dimension, c'est-à-dire que Alan Moore propose que Swamp Thing, enfin la créature du marais, n'est plus un humain transformé en plante. En fait, dans la vision de Moore, Swamp Thing est un esprit végétal qui a intégré les souvenirs de Alec Holland. Donc, c'est-à-dire que Alec Holland s'est retrouvé hors jeu, mis hors jeu, et en fait, on a cet esprit de la nature, cet esprit du marais qui était présent et en fait qui a qui a absorbé, qui a intégré les souvenirs du scientifique. Donc, en fait, il est persuadé d'être le scientifique. Donc, c'est une manière pour Moore, très intelligente d'ailleurs, de faire survivre le personnage d'Alec Holland, mais en posant cette question identitaire, c'est-à-dire qui suis-je, en fait ? Qui suis-je? Est-ce que ce que je crois savoir est véritable? Et disons que le gros travail qu'a fait Charles Sowles après, c'est d'intégrer Swamp Thing dans l'univers DC Comics, voilà, en général. C'est-à-dire qu'il va aller à Metropolis, il va passer à Gotham. Donc voilà, la grosse difficulté avec ces personnages, c'est d'arriver à les intégrer à une matrice qui est infinie, en fait. C'est un peu le problème, c'est qu'elle n'a toujours pas de fin. C'est ce qui fait la particularité des comics. Voyons maintenant un autre personnage que j'aime beaucoup et qui est peu, relativement peu invoqué dans l'univers de Batman. Je vais prendre la bonne page, ce sera mieux. Alors, il est pas là, il est là. Donc, le Man-Bat. Là, on retrouve l'imaginaire du savant fou. Once again. Donc, Neil Adams et Frank Robbins qui se mettent ensemble dans Detective Comics numéro 400 qui sort en 70. Alors, à la base, on a un scientifique qui s'appelle le docteur Kirk Connor, Langstrom, qui fait des études sur les chauves-souris et qui, pour une raison qui est propre au savant fou de comics, cherche absolument à intégrer la biologie de la chauve-souris. C'est-à-dire que les chauves-souris, vous le savez peut-être, elles sont capables d'écholocalisation, c'est-à-dire elles se repèrent dans le noir grâce aux ultrasons qu'elles émettent et dont l'écho se répercute et revient à leurs oreilles. Ce qui leur permet en fait de se diriger dans les espaces clos ou carrément dans le noir. Donc ça, on le sait. Et pour une raison qui n'est pas spécialement précisée plus que ça dans le comics original, voilà. Et Langstrom cherche absolument à avoir cette capacité. Le truc, c'est que voilà, il a quelques petits effets secondaires qui lui arrive en travers de la figure. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai directement étudié dans mes travaux. C'est-à-dire qu'en fait, Batman a compris quelque chose. Je parle bien de Batman, hein, là. Batman a compris quelque chose dans son approche de la chauve-souris. C'est qu'il a compris qu'il n'était pas une chauve-souris, dans le sens où il s'est déguisé en chauve-souris. Il a intégré une technologie qui lui permet de pallier le fait qu'il n'est pas capable de se repérer dans le noir sans sa technologie. Ça, c'est un truc qui a vraiment passionné aussi bien les scientifiques que les philosophes. En 1974, on avait un monsieur, un philosophe, qui s'est appelé Thomas Nagel, et qui a écrit un article, d'abord en anglais, puis traduit en français, qui s'appelle « Quel effet cela fait d'être une chauve-souris ?» Et en fait, Nagel part du principe que la chauve-souris est un excellent exemple de biologie merveilleuse, car Nagel dit « Quels que soient les efforts que fait notre conscience, nous n'arriverons jamais à ce niveau de perception miraculeux des chauves-souris. » Nagel se trompait en partie, parce qu'il a oublié que les sciences, ça avance, les découvertes scientifiques, ça avance aussi, et que la technologie augmente de telle sorte que la biologie des chauves-souris et l'écholocation des chauves-souris, on l'a parfaitement compris, on l'a parfaitement enregistré, et on sait comment ça fonctionne. On sait très bien qu'elle fonctionne par ultrasons. Et ça, c'est ramené intuitivement dans Batman. Regardez les films de Nolan, avec ce fond bleu, quand Batman doit se repérer dans le noir, on a quelque chose de visuel et du fait que Batman arrive à se repérer dans le noir par sa technologie. Le truc, c'est qu'il n'a pas accès à une véritable perception de la chauve-souris parce que Batman en est incapable. Biologiquement, il ne peut pas. Il n'a pas de super pouvoir. Il a juste une super technologie. Et en fait, je pense, ma théorie en tout cas, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que les auteurs de Man-Bat, les auteurs d'origine, se sont dit « Bon, alors apparemment, on a du mal à représenter comment les chauves-souris se repèrent. » Parce que c'est tout l'intérêt de Langstrom, en fait. Dans ses capacités, le Man-Bat est une chauve-souris anthropomorphe, donc c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de l'être humain hein, qui subsiste chez lui, mais dans ses capacités, justement, il a cette compétence de pouvoir se repérer parfaitement dans le noir par ce qui est désigné comme étant de l'écholocation, mais je vous assure que ça n'en est pas. J'ai comparé les planches, DC Comics ne parvient pas à représenter correctement cette prouesse-là. Bah, ma théorie, c'est tout simplement que les auteurs ils se sont dit « Bon, ok, on a un problème. Biologiquement, l'être humain n'est pas capable de ça. » Ils se sont dit Bah, peut-être qu'en imaginant une chauve-souris biologique, c'est-à-dire pas un Batman, mais un Man-Bat, un homme transformé biologiquement en chauve-souris, peut-être qu'on va pallier au problème. Toujours pas. Il n'y arrive pas parce que justement, Man-Bat reste anthropomorphe, il reste capable de conscience. D'ailleurs, c'est tantôt, cette image est particulièrement classe, c'est quand même tantôt un ennemi de Batman, tantôt un allié. C'est pas, je le qualifierais pas de super vilain, j'irais plus vers l'anti-héros. Pour Man-Bat, en ce qui me concerne, voilà, c'est une victime de la science. Et ce qui est intéressant, si vous avez l'occasion de lire le Detective Comics numéro 400, la première fois que Man-Bat arrive, je vous invite à bien regarder, à bien lire surtout. Alors j'ai eu d'énormes problèmes pour traduire les textes, parce qu'il parle de minute sound et d'ultrasons. Alors qu'en fait, ils veulent dire la même chose, ils veulent vraiment s'appuyer sur les ultrasons, ils ont vraiment conscience que l'écholocation existe et que c'est une capacité merveilleuse. Le problème, c'est qu'il y a vraiment une confusion entre l'intensité sonore et le volume sonore. Voilà, Man-Bat explique, enfin Langstrom explique avant de se transformer, que les sons d'une certaine fréquence lui sont insupportables. Le truc, c'est que quand vous avez un son, il y a effectivement des fréquences que notre oreille ne perçoit pas et que les chauves-souris perçoivent. Donc ça, c'est effectivement un super pouvoir. C'est effectivement la chauve-souris est une super créature en elle-même. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème avec le volume. C'est-à-dire que, en fait, intensité et volume, c'est deux choses complètement différentes. L'oreille humaine a un seuil de tolérance qui, s'il n'est pas dépassé, vous n'aurez aucun problème. C'est le volume qui vous pouvez parfaitement entendre une intensité particulière, c'est le cas quand une chaîne IFI fait l'Arsène par exemple, sans forcément que ça vous blesse. Mais si jamais le volume sonore dépasse le seuil de douleur de l'oreille humaine, là effectivement vous aurez mal. Et en fait, c'est génial parce que dans le comic de Man-Bat et dans toutes les prestations de Man-Bat, on a vraiment cette difficulté à sortir, mais une difficulté qui est compréhensible. Hein. Je ne suis pas en train de blâmer les auteurs de DC Comics de ne pas avoir lu des machins scientifiques. C'est pas le but. C'est juste de dire qu'on a un imaginaire qui fait que on a encore du mal à comprendre comment fonctionne notre corps et comment fonctionne la biologie animale. Et du coup, imaginez une chauve-souris capable de percevoir dans le noir et d'entendre des fréquences qui nous sont imperceptibles. Ça passe déjà pour du super pouvoir, et comme je vous le disais, la chauve-souris a généré et génère encore énormément de littérature biologique et imaginaire. On va pas aller vers tout ce qui est vampire, mais on a eu cette idée-là. Donc Man-Bat est vraiment, vraiment génial pour ça. Je vous invite à le voir dans la série animée de 92, Batman TAS. C'était d'ailleurs le premier épisode de cette série. Et on a vraiment l'idée d'une grande figure de l'imaginaire qui est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà, on a vraiment ce côté-là avec ce docteur qui prend le sérum et qui se transforme en une créature hyper, hyper musclée, mais qui a quelques problèmes. Ok, donc, créature suivante. Please welcome the lizard. Le lézard. Alors, re-un scientifique, dis donc. Mais c'est, de toute façon, dans les super créatures, le thème du scientifique, il est là. On y échappe assez mal. Donc, on est chez Marvel. Donc, vous reconnaissez peut-être au moins un des protagonistes qui a encore des toiles sous les bras à cette époque-là. C'est créé par Lee et Ditko. À l'époque, ils s'entendaient bien. C'est après que ça a fini, ça a clashé. Mais à l'époque, Lee et Ditko s'entendaient très bien en 63. Et donc, c'est un adversaire de l'homme araignée, du tisseur, de la tête de toile, bref, de Spider-Man. Et à l'origine, c'est l'histoire de Kurt Connor, qui était un chirurgien et qui soignait les GI en terrain militaire. Sauf qu'il s'est pris un obus dans la figure, et plus spécifiquement dans les bras. Et il se retrouve sur le terrain avec un bras amputé. Alors, il a idée d'étudier les lézards, parce qu'il a remarqué que les lézards pouvaient faire repousser leurs membres. Et donc là, on retrouve tout à fait cet imaginaire intuitif, hein, avec le côté une araignée me pique, donc je chope les pouvoirs de l'araignée. Hein, c'est une comment dire, une suppression cause à effet, hein, qui se met en place ici. Donc, On se dit, bah oui, puisque le lézard, forcément. Donc on va faire repousser un bras. Bon, il se trouve que le bras repousse, mais comme vous pouvez le constater, il y a un autre petit problème à gérer. C'est qu'il se transforme en lézard, précisément. Et souvent, ça vient avec tout un package de pouvoirs qu'on va retrouver, qu'on a déjà vu. Donc, il peut faire repousser ses membres, bon, soit. Mais surtout, il a une force, une vitesse et une agilité surhumaines qui sont même supérieures à celles de Spider-Man lui-même. Il a une grande résistance aux blessures parce que sa peau est faite d'écailles. Il peut donner des grands coups de queue. Tous ceux qui ont pensé à un truc dégueulasse sont priés de s'en aller. Et du coup, il garde aussi une partie de son intellect. Mais le problème, c'est qu'il a souvent tendance à se laisser aller à ses instincts reptiliens, on pourrait dire. Et son grand désir, c'est de gouverner la Terre avec des lézards, souvent. Il y a vraiment cette idée de domination du monde aussi, qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez Man-Bat. Man-Bat veut surtout qu'on lui foute la paix, principalement. Et il veut souvent redevenir humain, mais le lézard a vraiment un élan schizophrénique souvent, et c'est assez intéressant d'ailleurs. Ce personnage est assez classe. Voilà, donc là on retrouve complètement ce côté scientifique avec les éprouvettes qui veut absolument se soigner. On a un côté très intéressant dans l'histoire du lézard, parce que bon, c'est pas un ennemi, ça fait partie des classiques, on va dire. Mais ce n'est pas un ennemi hyper récurrent non plus dans son univers. Pas comme les Venom, par exemple, qu'on va voir après. Mais je le trouve intéressant parce qu'on a Peter Parker, Kurt Connors, le lézard et Spider-Man. C'est-à-dire qu'on a un étudiant, Peter Parker, qui va travailler avec le docteur Kurt Connors. Donc, il y a le respect élève-professeur. Mais ce respect s'efface devant l'identité du super-héros et celle du super-vilain. Là, pareil, on est plus proche de l'anti-héros que du super-vilain, parce qu'on peut voir Connors comme une sorte de victime. Et il y a des moments où il va avoir des moments de réflexion, de remords, d'autant que Spider-Man va essayer de l'aider, il va lui faire un antidote, puis ça va pas marcher, puis ils vont se combattre, et puis en fait non, ils vont se recombattre. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de quelque chose d'assez compliqué. Bon, voilà, il y a eu ça aussi. Pour ce qu'il vaut, il a gardé sa blouse au moins. Il a gardé sa blouse. Non, mais n'empêche, on rigole, mais ça fait partie de l'imaginaire du savant fou aussi. Hein, cette idée de l'homme qui devient le monstre, comme Hulk, hein, finalement. Hulk conserve surtout son caleçon, en fait, pour des raisons de chasteté évidentes, parce que si vous réfléchissez bien, il n'y a aucune raison que Hulk garde son caleçon, vu qu'il. Enfin, voilà. Mais du coup, Connors garde bel et bien sa blouse. Donc on a vraiment la dimension, cette frontière entre le monstre et l'humain. Là, c'est la blouse qui la conserve, en fait. Donc je trouve ça intéressant. C'est pas tout ça, mais quelle heure il est dans cette histoire? Parce que je parle. Et puis, du coup, je sais plus. Oh, nickel, parfait. Qu'est-ce que je suis fort, sans regarder, dis-donc. Très très bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous en reste un, ma foi. Un de mes petits chouchous à moi. On va faire comme ça, parce qu'après, il va me... Non? Tu veux pas? Tu... Ouais, bon, allez, c'est pas. Allez, ça fait rien. Ne nous énervons pas. Merci, Windows, pour ta collaboration. Alors, Non? Alors, non. Du coup, non, s'il te plaît. On va passer autrement. Non, apparemment, il tient absolument à grossir l'image. Bon, je vais la jouer MacGyver et je vais y aller à la main. Hein. Bon, alors, Venom. Alors, ça date de Secret Wars. Alors, Secret Wars, je ne vais pas vous faire tout l'historique de Marvel avec les crossovers et les univers parallèles parce que là, on n'est pas sorti, mes amis. En gros, Secret Wars, c'est l'ami Galactus, si je ne me trompe pas, qui veut boulotter une planète ou deux. Et. Pardon ? Ah oui, pardon, Beyonder, autant pour moi. Qui veut boulotter quelques univers ou deux. Et donc les super-héros vont l'arrêter et vont aller se battre dans des dimensions parallèles. Et notre ami Speedy va ramener de ce périple un costume qui le change un peu de son costume rouge et bleu habituel. puisque c'est un costume noir. Alors il faut savoir qu'on est en 84, hein, c'est un ennemi relativement récent. C'est Todd McFarlane, entre autres, qui a sa création. Et en fait, ce costume noir est un peu un pacte avec le diable, parce que, il va se rendre compte qu'il réalise à peu près tous ses désirs, qu'il est beaucoup plus fort, qu'il est beaucoup plus résistant. Mais le problème, c'est que c'est un symbiote. Et donc, comme le nom l'indique, le symbiote va tenter d'entrer en symbiose complète avec l'hôte comment dirais-je, qu'il habite, tout simplement. Et en fait, Spider-Man va être obligé, à force, de se débarrasser de ce monstre qui va finalement le bouffer. Mais, alors d'accord, il se débarrasse du symbiote, donc à la base, grâce au docteur Reed Richards et d'un appareil ultrason. Mais le truc, c'est que le symbiote, il conserve la mémoire de ceux qui l'ont porté. Par conséquent, Venom est l'un des ennemis les plus terribles de Speedy, parce qu'il connaît tout de Peter Parker, de sa tante et de tout le reste. Donc du coup, tadam! On a envie de lui faire un bisou quand même. Hein. Donc voilà, ça c'est Venom, donc c'est le Spider-Man version monstre. Alors, il y a eu plusieurs symbiotes dans l'histoire, il y a eu plusieurs autres aussi. Notamment un symbiote encore plus dangereux. Donc là, à ce moment-là, quand il a quitté l'homme-araignée, il va aller s'associer avec Eddie Brock. Eddie Brock, qui a une petite dent contre Peter Parker. Et ça tombe bien parce que le symbiote, lui, il a la solution. Il a vu un monsieur qui souffrait et qui avait besoin de pouvoir. Donc il dit, bah, tranquille, je te donne mon pouvoir, il n'y a pas de problème. Donc Eddie Brock accepte bien volontiers de donner son esprit au symbiote, si ça doit lui donner ce qu'il faut pour détruire l'homme-araignée. Et donc, on comprend en quoi ça pose problème, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, Venom, c'est le nom qui va naître de la fusion entre Eddie Brock et le symbiote, mais disons que cette créature connaît tout de Peter Parker. Et en plus, elle est plus forte, plus rapide, elle est résistante au sens d'araignée de Spider-Man, donc le sens d'araignée étant un sens qu'il obtient en se faisant piquer et qui lui permet de détecter le danger à l'avance. Et dans certains comics, du coup, il n'arrive pas à détecter Venom avant qu'il se pointe. Donc voilà, ça en fait une des créatures les plus intéressantes et les plus dangereuses de Spider-Man. Alors, comme je vous disais, plusieurs autres. Non, c'était celle-là en fait. Je me suis emmêlé les pinceaux. C'est pas grave. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà, petit exemple typique hein, de bataille souvent extrêmement violente entre les deux. Et comme vous le savez, l'univers Marvel étant ce qu'il est, ça avance. Donc le symbiote change d'hôte plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose d'assez moderne, où Eddie Brock va en avoir un peu marre de se faire balloter et va en avoir un peu marre des dégâts que le symbiote génère. Et en fait, il va arriver à reprendre le dessus et à créer Anti-Venom. Donc, comme vous pouvez le voir, un Venom bon, qui n'est pas spécialement rassurant pour autant, mais qui est blanc et qui essaye de s'amender de comment dire, des carnages, si je puis dire, faits par le symbiote. Sachant que Carnage est aussi une des créations du symbiote. Lorsqu'il s'allie à Cassidy, qui lui est réellement psychopathe, et Eddie Brock est juste malheureux, et donc fait des bêtises en voulant s'associer en symbiote, mais Cassidy, lui, est vraiment psychopathe et complètement starbé, et il veut simplement s'amuser à détruire autant qu'il le peut avec le symbiote avec lui. Et donc là, après plusieurs générations de symbiote, justement, Eddie Brock va décider de réutiliser le symbiote à d'autres fins et de prendre contrôle de la situation en devenant anti-Venom. Bon, alors, du coup, beaucoup d'informations en même temps, florilège de créatures. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que le thème de créatures dans l'imaginaire, il est d'une part inépuisable, à mon avis, et il est aussi très intéressant parce que finalement, créature, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une créature? C'est ça la question. Dans créature, il y a création. Donc, je vous ai montré un florilège de bestioles, un groupe, et puis des créatures éparses, donc le groupe étant celui des tortues. On a l'idée, donc je vous l'ai dit, si on fait le résumé de cette science, à la fois positiviste, c'est-à-dire l'idée que la science peut tout résoudre, mais elle génère aussi des monstres, du coup. Et ce qui me paraît intéressant, c'est vraiment la notion de crise identitaire qui transparaît à chacune de ces créatures. C'est-à-dire, où est mon humanité? J'ai des pouvoirs. Est-ce que je dois pour autant accepter de devenir un monstre? Parce que finalement, les super-héros, quand ils s'associent aux animaux, vous avez remarqué la présence du règne animal chez les super-héros? Il y a un rhinocéros, il y a un vautour, il y a une panthère, il y a un chat, je sais pas s'il y a un pigeon, il faudrait que je regarde. Mais ils en sont capables, hein. Il y a vraiment une présence du règne animal qui est bah, prépondérante, hein. Et finalement, souvent, remarquez-vous aussi, il y a autant des animaux familiers que des animaux plus exotiques. Par exemple, c'est rare que l'araignée, dans les cultures occidentales tout au moins, s'attire la sympathie, hein. C'est surtout une bestiole de château hanté, de grotte. Voilà, ça fait pop. Même quand on en voit sur la table, c'est pas spécialement joyeux pour un certain nombre d'entre nous. Et bien justement, Stan Lee a fait un pari aussi avec cet homme araignée. On lui a dit, mais Stan, enfin, cette histoire d'adolescent qui se fait mordre par une araignée, mais enfin, mais ça ne marchera jamais. Bon, bah ben voilà, aujourd'hui, Spider-Man a encore des films. Il faut que j'aille voir Homecoming vite fait quand j'aurai le temps. Et donc, il a encore des films. Donc, je pense que cet imaginaire de la créature a encore de beaux jours devant elle. Et du point de vue strictement imaginariste, on va dire, ça doit vraiment nous poser question. Si vous avez vu le magnifique documentaire du complexe de Frankenstein, hein, si vous avez pris 5 minutes, enfin 5 minutes, 1 heure pour venir dans cette salle, je crois qu'il y a une chose à retenir, c'est que, alors bon, du côté des effets spéciaux, c'est vrai, mais faire des créatures, c'est raconter une histoire et c'est leur donner vie quelque part. Et moi, je suis persuadé que c'est ce que font les auteurs de comics et les cinéastes quand ils exacerbent un peu les peurs, les délires. Voilà, on a cet imaginaire de Frankenstein, cet imaginaire du Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui se retrouvent déclinés, mais c'est les mêmes. L'imaginaire a ce pouvoir de muter en permanence. Voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, l'étude n'en sera jamais terminée, et tant mieux pour moi, après tout. Donc, bah, on va s'arrêter là, je pense, hein. Enfin, s'arrêter là. Du moins pour moi, en tous les cas, qui va me permettre de boire un coup parce que j'ai complètement oublié de boire. Mais du coup, si vous voulez qu'on discute un petit peu, il n'y a pas de souci, posez des questions. Il est moins 20, donc on a un petit moment on a un temps de questions. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Que pour lequel? Alors, apparemment, il demande si. Bah, vas-y, vas non, mais vas-y, 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 oui.
Est-ce que tu vois quelqu'un qui s'est volontairement transformé en monstre pour faire le mal, mais en fait, plus de puissance, plus de force, et qui n'a jamais eu de regret?
Qui n'a jamais eu de regret? Bah. C'est intéressant ce que tu demandes. Parce que, en fait, il y a le thème du pacte avec le diable aussi. Du pacte avec le diable. Oui, généralement, oui. Alors, un exemple de créature qui aurait complètement assumé d'être devenue badass et qui n'a aucun regret.
En héros ou en méchant?
Voilà, en héros ou en méchant? Parce qu'en méchant, bon.
L'abomination.
Oui, voilà. L'ennemi principal, enfin, un des ennemis de Hulk, l'abomination, qui était à la base un soldat, a désiré devenir ça, en fait. Mais parmi les gentils, entre guillemets, là, franchement, c'est. Non, généralement, le regret, du moins chez ceux qui ont un karma bon ou neutre, on va dire, si on parle un peu en rôliste, ben ouais, généralement, ils ont quelques soucis moraux, ouais, avec leur choix. Mais j'enquêterai un peu mieux.
Oui, bonjour. Je me posais la question pourquoi tu as insisté autant justement sur les créatures animales, enfin mélange d'animaux. Il y en a pas mal d'autres qui mélangent de choses, je pense à Sandman au hasard.
Bien sûr.
Est-ce qu'elles sont, à ton avis, fonctionnent de la même manière, elles ont la même logique, logique un peu chimérique, logique de savant fou, est-ce que ça fonctionne de la même manière ou pas penser à autre chose qu'un animal?
Ouais, je vois. Du coup, par exemple, si on prend un groupe de gentils, par exemple comme les quatre fantastiques, c'est des savants qui sont retrouvés dans une tempête cosmique et qui ont eu des conséquences corporelles qui les a transformés en monstres. Alors celui qui a été le moins bien loti, c'est Ben Grimm, par exemple, qui lui est resté à l'état de golem, enfin d'homme de pierre en tout cas. Pourquoi j'ai choisi surtout le côté animal? Parce que c'est un choix, effectivement, parce que j'avais un choix à poser, je l'ai posé. Et c'est vrai que ça m'a semblé assez naturel de le faire pour voir comment, justement, comme je vous l'ai dit, à quel point le règne animal est présent dans les comics et les comics ou la culture populaire d'ailleurs, hein, quoi qu'il en soit. Mais pour ce qui serait des autres créatures qui ne seraient pas animales, parler de l'homme sable, par exemple, oui, Sandman, oui, je pense que ça fonctionne un peu sur la même logique. Alors après, il y a tout ce côté, tout le côté accident scientifique, hein, qui me semble demeurer quand même. Le côté accident scientifique ou mauvaise manipulation ou le gars s'est retrouvé là par hasard au mauvais moment, au mauvais endroit et a récupéré une transformation pénible. Quelque part, enfin, c'est pour ça. Le thème de super créature, enfin, si j'avais voulu avoir cette prétention. De vous faire vraiment quelque chose d'hyper complet, parce que prétention que je n'ai pas, il m'aurait fallu une demi-journée, parce qu'on peut penser aussi au cyborg à ce moment-là. Robocop, quelque part, est une créature, qui n'a certainement pas eu de bol, parce qu'il a été littéralement privatisé, Robocop. On lui a dit, t'es même pas un cadavre, donc hop, tu appartiens à l'OCP, et on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, pour ça, Verhoeven est très 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 fort pour nous mettre un petit peu devant les réalités et les dégâts. Mais oui, je pense qu'il y a que la logique est la même, parce que finalement, avoir des pouvoirs, avoir des dons, avoir des super pouvoirs, ça a toujours été quelque chose qui a fasciné l'imaginaire, mais de milliers de façons différentes. Et donc, je pense qu'il y a, à partir du moment où on projette des affects humains anthropomorphes sur ces créatures-là, forcément, ça pose des questions et le processus est un peu le même. Pour moi, il y a une universalité de ce thème-là dans l'imaginaire, tout particulièrement l'imaginaire contemporain. Mais l'imaginaire contemporain n'est pas né de nulle part. Hein. Il est né des couches de sédiments progressifs de nos mythes, de nos histoires, de nos contes. Je dis pas que tout se vaut et que tous les schémas se retrouvent, tous les chemins mènent à Rome, qu'il n'y a aucune exception. Il y a des cas d'exception, mais je pense qu'il y a vraiment des cas généraux, ouais, effectivement.
Oui, je me posais la question par rapport à la différence entre les super créatures américaines,
ouais,
et les super créatures style japonaise, etc.
Alors, ça c'est une question pour Delphine, ça. Davantage que pour moi. Je pense qu'il y a quand même une philosophie. D'ailleurs, Alain, je pense que tu pourrais répondre aussi en partie, sans vouloir te mettre la fiche, hein, mais je pense que. Ouais. Alors juste, si je peux tenter de formuler quelque chose, je pense qu'il y a une... en plus, tu seras en place pour après, donc c'est très bien. Viendez. Je pense qu'il y a une philosophie dans la culture orientale qui est quand même assez différente de la nôtre par rapport à ça. Je veux dire, la culture des super-héros, c'est pas la même. Et même la culture des créatures, je pense au kaiju, par exemple. Mais l'image de kaiju, voilà.
Oui, en effet, déjà, il y a déjà toute la culture qui est née après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu la catastrophe, les deux mondes olympiques qui ont fait une révolution asiatique. Et le Japon, la culture asiatique et le Japon en particulier, ont une culture du renouveau qui est assez importante. Et en plus, ils ont l'habitude de prendre des dégâts et puis
cet aspect-là et de se réagir quoi. On l'a vu notamment avec le séisme il y a quelques années. Et il y a aussi l'aspect, ben, ils ont ressenti le danger de la guerre, en fait, faire de la guerre et de la menace nucléaire, ils se sont pris en fait deux pour faire ça. Donc la naissance de ce que disait Florent, qui est vraiment ce qu'on appelle les kaijus en fait, c'est une branche de tout le cinéma ou des séries d'effets spéciaux qui se spécialise sur les monstres géants. Kaijus, ça veut dire ça, ça veut dire monstres gigantesques. Et on parle de kaijus égales, de monstres, enfin, film de monstres. Et donc le plus populaire, c'est Godzilla, qui bah, est une créature, selon les versions, c'est un peu différent, mais dans certaines, notamment bah, dans le dernier film américain qui est sorti, et puis c'est un petit peu ce qui revient souvent au Japon, mais il y a pas mal de variantes, c'est un espèce de dieu de la nature qui revient se venger, qui revient un peu sauver les hommes, ou remettre les hommes dans le droit chemin, ou affronter d'autres créatures, donc il y a un peu cet aspect-là aussi, ou alors des fois c'est vraiment une créature qui est née de la catastrophe nucléaire, de mutation génétique. Donc il y a cet aspect-là. Après, bon, il y a toute une culture aussi de tout ce qui est beaucoup ça, tout les films d'effets spéciaux, et puis les séries live, genre Kamen Rider, donc c'est sorti sous le nom de Mask Rider en France par exemple, où là c'est la série live avec une transformation. C'est un peu le pendant super-héroïque des super-héros américains. Hein, et Kamen Rider, par exemple, c'est exactement ça, c'est des personnages qui sont transformés en insectes, enfin en héros, en super-héros, avec une costume insecte. Et puis dans la conférence que je ferai après, bon, je ne parle pas exactement de créatures, mais il y a une série en particulier où il y a cet aspect-là.
Merci. Hein.
Bonjour. Pour revenir sur Swamp Thing.
Ouais.
Ce que j'aime bien avec cette créature, c'est que chez Marvel, il y a eu le plagiat du mouvement direct. C'est même pas lequel des deux a créé son personnage en premier. Et donc chez Marvel, il y a eu son équivalent, qui était Man-Thing, qui est grosso modo la même chose, un monstre fait de blanc qui vit dans les marécages, etc.
Alors j'avoue que je le connais pas trop celui-là.
Le truc, c'est qu'en fait, quand l'un est devenu un peu plus mystique, ouais, et avec un penchant cosmique d'être l'incarnation de la nature qui avait des souvenirs d'un homme, mais qui était un Kaya à subtiliser, et un marécageux chez DC,
ouais.
Chez Marvel, ils ont, je ne sais pas qui, a développé l'idée que Man-Thing était l'incarnation du Nexus, des réalités, donc le point de contact de tous les univers parallèles. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux grandes maisons d'édition ont voulu faire de ce monstre marécageux l'incarnation physique d'un concept cosmique assez perché, mais pas le même dans les deux cas, c'est ça qui est bizarre.
C'est vrai que l'idée de la création d'une cosmogonie chez les super-héros a toujours été quand même très très présente. Je pense à Kirby, hein, qui a amené avec les New Gods notamment une énorme cosmogonie, et finalement Marvel intègre aussi sa cosmogonie avec cette problématique, bon, que DC a eu aussi, mais c'est quand même très présent chez Marvel dès le début, une problématique sociale en fait, enfin sociale, j'ai toujours l'impression que c'est péjoratif quand je dis ça, c'est pas réducteur, c'est juste que Marvel interroge énormément la façon dont nous fonctionnons. Donc en fait, le fait de conceptualiser cette créature justement et d'en faire et justement de l'intégrer à une cosmogonie de science-fiction, parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a, c'est vrai que je suis passé très 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 vite, mais ce qu'on appelle le multivers Marvel, même pour les spécialistes, je vous assure que c'est ultra compliqué, il y a des lignes temporelles, il faut vraiment arriver à se retrouver là-dedans, même d'ailleurs pour moi un des signes où les auteurs eux-mêmes se disent ok, là il faut qu'on rassemble un petit peu nos univers, c'est quand il y a les reboots en fait dans les comics. On sent vraiment, alors il y a un côté générationnel, hein, c'est il faut parler à d'autres lecteurs, il faut renouveler les personnages, mais le phénomène du reboot, c'est-à-dire qu'on va redémarrer un personnage ou une ligne temporelle, une cosmogonie, c'est de dire aussi, bon, bah, on essaye de repartir plus ou moins à zéro et de recommencer. Mais pour les deux créatures qu'on citait là, je trouve intéressant justement de leur avoir donné ce statut-là, d'avoir donné à une bête, à des créatures justement, à des êtres anthropomorphes, ce rôle un peu charnière de rassembler un peu, parce que ça dit quelque chose de l'humanité et de la façon dont les auteurs ou certains auteurs perçoivent l'humanité et la façon dont on fonctionne. Ça me semble effectivement important. Ouais.
Justement, à propos d'auteurs, je trouve que vous n'avez pas trop cité les auteurs. Par exemple, de Swansea, avant d'être repris par Alan Moore, c'était Bernie Wrightson, vous ne l'avez pas mentionné, par exemple.
Oui, en fait, c'est pour ça que je vous ai... Alors, je vais être complètement honnête. Hein. Swamp Thing est une créature que je connais peu, et c'est la raison pour laquelle je vous ai, pour rendre hommage au travail de mon collègue, je vous ai renvoyé au travail justement de mon collègue que j'ai cité, Philippe Saint-Germain, parce que, donc vous avez raison, effectivement, j'ai peu cité les auteurs, mais parce qu'en fait, il y a des gens qui parleront infiniment mieux que moi de Swamp Thing. C'est une créature en fait que j'ai sélectionnée justement pour cet aspect philosophique dont j'ai parlé, qui me semble intéressante, mais c'est une créature, je l'admets, que je connais peu, je connais relativement peu son histoire, même si je me suis documenté un minimum pour cette conférence évidemment, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, chaque auteur que l'histoire a retenu à plus grande échelle en fait. A vraiment donné son... J'ai essayé de le dire un petit peu sans effectivement rentrer dans les détails. Chaque auteur, effectivement, a donné son élan. Mais c'est vrai que j'ai donné Moore comme exemple d'influence qu'on retient. Mais il y en a eu d'autres à part Alan Moore, oui, tout à fait.
Dernière question ?
J'ai d'ailleurs totalement oublié de vous mentionner le film de Wes Craven, qui est sur Swamp Thing, justement. Non, pas plus. J'ai une question. Oh.
Je te pose la question, je vais demander une dernière question.
Voilà. Bon, et bien, s'il n'y a pas de questions, et si Alain me le permet, je vais aller m'aérer 5 minutes avant que tu commences ta conf, parce que je vais mourir si j'enchaîne les deux. Parce qu'il ne fait pas froid dans cet amphi. Du coup, je vais aller me réhydrater un chouille plus loin. Oui, je vais aller me transformer avec des muscles et des poils.